le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bienvenue à tous, merci de nous renouveler votre fidélité. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, il faut préciser aux auditeurs que vous avez reporté vos vacances parce que, évidemment, on avait fait une annonce il y a quelques semaines et les choses ne sont pas passées comme prévu et vous êtes là et c'est tant mieux.
N'en parlons plus, Francis Laloupo, je vais vous censurer.
Nous vous avons retenu surtout ici.
Si vous continuez à parler de mes vacances, j'y vais plus là.
On vous a retenu surtout ici.
Voilà, en tout cas, c'est avec plaisir que je suis avec vous cette semaine encore. Au Togo, s'achemine-t-on enfin vers une solution à la crise politique ? Après des mois de tensions et d'intenses efforts diplomatiques de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, opposition et pouvoir se sont mis d'accord sur la recomposition de la commission électorale qui doit organiser les prochaines législatives. Mais les lignes ont-elles réellement bougé ? On le verra dans le débat. Après l'annonce faite cette semaine par la Cour pénale internationale qu'elle n'ouvrira pas une enquête sur les violences post-électorales de 2016 au Gabon, soulagement du côté du pouvoir et grosse déception pour l'opposition et des familles des victimes de cette crise. Les victimes passeront-elles par perte et profit ou la justice nationale s'engagera-t-elle, comme le souhaite l'opposition, à faire la lumière sur ces violences et en rechercher les coupables ? Nous en parlerons dans cette émission. Dernier sujet au menu de cette semaine, le Cameroun qui se prépare pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Depuis le début officiel de la campagne électorale il y a une semaine, la plupart des 9 candidats en lice, dont le président sortant Paul Biya, ont investi le terrain pour séduire les électeurs. Ils doivent cependant composer avec les violences quasi quotidiennes dans les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Notre plateau avec vous, Francis Laloupo.
Oui, il y a notre grand témoin invité dans cette édition. Il est avec vous dans les studios BBC Afrique à Dakar, Aimé Tchabouré-Gogué, président du parti politique togolais dénommé Alliance des démocrates pour le développement intégral, l'ADDI, député à l'Assemblée nationale du Togo. Aimé Tchabouré-Gogué a été ministre du plan et de l'aménagement du territoire, notamment au Togo. Monsieur le député, monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour Francis, bonjour Olivia.
Merci d'être avec nous. Notre confrère invité dans cette édition, il est au téléphone depuis Lambaréné au Gabon, Guy-Pierre Bitégué, directeur de la publication du journal Le Banja. Guy-Pierre Bitégué, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là également. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Aimé Tchabouré-Gogué, professeur d'économie à l'université de Lomé de 1976 à 2012. Vous serez de 1994 à 1998 le directeur du programme interuniversitaire de troisième cycle d'économie pour les pays francophones de l'Afrique du Sud du Sahara. Ancien doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion, vous êtes depuis 2013 professeur de commerce international au Trade Policy Training Center in Africa, le TRAPCA, à Arusha en Tanzanie. Et en janvier 2014, vous êtes devenu membre du comité interparlementaire de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. S'agissant de votre parcours politique, vous avez été en charge des ministères du plan et de l'aménagement du territoire et aussi de l'éducation nationale et de la recherche scientifique entre 1991 et 1993 pendant une période de transition politique au Togo. Vous présidez depuis 2007 le parti politique Alliance des démocrates pour le développement intégral, inscrit dans l'opposition. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Togo depuis 2013. Aimé Tchabouré-Gogué, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Voilà pour le plateau, Liliane. On peut désormais dérouler le sommaire avec vous.
Le premier sujet, et ce sera le Togo, après l'échec des expériences précédentes, la plus récente phase de discussion entre pouvoir et opposition au Togo s'annonçait plutôt difficile à l'ouverture à Lomé. Et pourtant, à l'issue des travaux de la deuxième réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO, on note une avancée importante, c'est ce que disent certains membres de l'opposition. Et c'est ce que souligne aussi le correspondant de BBC Afrique à Lomé, Nicolas Akbosou.
Contrairement à leur première séance tenue il y a deux semaines, les membres du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO et les protagonistes de la crise politique togolaise se sont séparés hier, l'air un peu décontracté. Preuve du consensus obtenu au sujet de la recomposition de la commission électorale nationale indépendante exigée par l'opposition. La date des législatives est maintenue au 20 décembre 2018, telle que recommandée par par la CEDEAO, ministre de la fonction publique et membre de la délégation du parti au pouvoir, Gilbert Bawara, note un pas important dans les discussions et dans le processus électoral en cours.
La réunion d'aujourd'hui marque une bonne étape, à la fois dans la décrispation et la détente du climat sociopolitique. Le processus électoral va se poursuivre également dans un élan d'inclusion et de participation plus grande de toutes les parties prenantes.
L'opposition a accepté de rejoindre la commission électorale pour prendre le train du processus électoral en marche. Le recensement électoral débute le 1er octobre prochain. Le Sénégalais Alioune Badara Fall, recruté par la CEDEAO pour aider la classe politique togolaise à opérer la réforme constitutionnelle, est déjà arrivé à Lomé pour sa mission. Idem pour les experts électoraux, l'un venu de la Côte d'Ivoire et l'autre du Niger, chargé d'appuyer la CENI dans le processus électoral. Nicolas Agbossou, Lomé, BBC Afrique.
Voilà, Monsieur Tchabouré-Aimé Kogé, vous venez d'entendre les explications de notre correspondant, le correspondant BBC Afrique, qui explique que les membres de la classe politique sont sortis un peu plus détendus qu'on ne les avait vus dans les, lors des précédentes discussions. Alors, on peut parler de décrispation de l'atmosphère et selon vous, qu'est-ce qui a décoincé les acteurs politiques togolais et peut-être débloqué la situation?
Non, c'est vrai, il y a un certain déblocage. Parce que vous savez, depuis longtemps, nous avons réclamé l'application des textes. Dans la loi électorale, il y a une disposition qui dit que, en gros, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, comprend 17 personnes. 8 sont de la majorité présidentielle, 8 de l'opposition. Donc c'est supposé que les 8 de l'opposition soient désignés par l'opposition. Mais bizarrement...
Et la dernière personne?
La dernière personne, c'est un fonctionnaire de l'administration publique qui, en principe, selon l'esprit et le fond de l'accord politique global, devrait être simplement un observateur. Mais malheureusement, le gouvernement a violé ces textes, cette loi, cette disposition de la loi électorale. Un, en désignant, au lieu de 8, 12 personnalités, en prétendant que les 4 autres étaient de l'opposition. Et ensuite, le fonctionnaire qui ne devrait être qu'un observateur est le président de la CENI. Vous voyez, il y a un non-respect, une violation flagrante de la disposition de la loi.
D'accord, ce qui explique donc ce mécontentement de l'opposition.
C'est ça.
Ma question est de savoir, maintenant, la loi semble désormais respectée, puisque vous dites qu'elle était violée jusque-là.
Non, ce n'est pas totalement respecté, puisque le président de la CENI...
À quoi est-ce qu'on peut attribuer cette évolution, on va dire?
J'ose espérer que le gouvernement revient sur le meilleur sentiment, veut respecter la loi, et probablement à cause de la pression des facilitateurs de la CEDEAO. C'est regrettable que la situation ait été bloquée à cause de ce comportement.
Merci.
Où en est-on précisément, monsieur le député, de la crise déclenchée en août 2017? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on s'éloigne de cette crise? Est-ce que les élections seront l'étape décisive de cette résolution de crise?
Non, nous ne sommes pas convaincus que les élections seront une manière de résoudre la crise. Parce que nous avons toujours effectué des élections au Togo. Mmh. Mais à chaque élection est suivie de protestations, de contestations, de violences et de négociations, de dialogues sans en finir. C'est pourquoi pour nous de l'opposition, nous disons qu'il faut véritablement effectuer les réformes constitutionnelles et institutionnelles dont nous parlons, et puis les réformes électorales, avant d'aller aux élections.
Est-ce que vous pensez que le temps imparti pour ces réformes est suffisant entre aujourd'hui et décembre prochain?
Non, D'autant plus que les législatives sont prévues le 20
pour
décembre.
Pour nous, le délai prévu ne devrait pas constituer une contrainte, dans la mesure où ce que nous souhaitons tous, que ce soit les facilitateurs ou j'espère tous les Togolais, c'est la résolution de la crise. Il ne sert à rien d'aller aux élections le 20 décembre pour retomber dans les mêmes problèmes le lendemain. Pour nous, de l'opposition, nous sommes très clairs dessus. Si même il faut faire les élections le 1er novembre, nous sommes prêts. Aussi longtemps qu'on procède à toutes les réformes d'une manière claire, sincère et transparente et consensuelle. Une fois qu'on peut faire ça, que nous pouvons ensemble respecter tous les délais en vigueur qui permettent de faire les réformes normales, qui permettent d'aller aux élections d'une manière transparente, nous sommes prêts.
Quelle est l'opposition aujourd'hui au fond dont la voix pèse dans cette crise? Parce que est-ce que toute l'opposition parle aujourd'hui d'une seule et même voix?
Bon, nous prétendons que c'est la C14, nous disons que c'est nous qui représentons la coalition.
Même au sein de la C14, tout le monde ne considère pas qu'il y a eu des avancées notables ces jours-ci.
Non, bien sûr. Quand un gouvernement respecte la loi, est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée? Mais entre nous, la loi existe, le gouvernement viole la loi. Maintenant, le gouvernement, on le pousse à respecter partiellement encore la loi et on pense que c'est une grande avancée.
Donc, vous voulez dire que le plus dur n'a pas été fait? Le plus dur n'a pas été fait
parce que, premièrement, il faut...
Malgré la parité désormais...
Oui, parce qu'il y a le problème du président de la commission, électorale. Il y a le président.
Dont l'opposition demande le remplacement.
Le remplacement. D'abord, par son comportement, il nécessite d'être remplacé.
C'est-à-dire?
Rien n'est prêt. Les opposants, la CENI n'était pas consensuelle. Il fonce comme un taureau. Je ne sais pas où est-ce qu'il va pour entraîner le pays dans la crise. Il n'est pas du tout consensuel. Un président qui est fonctionnaire, qui est supposé même être observateur, ne peut pas avoir un tel comportement. Ensuite, au niveau des démembrements de la CENI, c'est-à-dire les commissions électorales locales indépendantes qui sont dans les préfectures, là également, nous avons un problème avec la présidence, où le président est un fonctionnaire, est un magistrat, est-ce qualité? Et les magistrats, vous savez, dans les pays comme le nôtre, les magistrats sont loin d'être indépendants.
Pourquoi on comprend, monsieur Goguet, alors, après cette étape de la parité désormais acceptée, je le disais, au niveau de la commission électorale, qu'est-ce qui va être les prochaines priorités pour vous pour que les élections du 20 décembre se tiennent dans les meilleures conditions?
La prochaine étape, d'abord, il faut voir les démembrements. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il faut faire les réformes constitutionnelles parce que, notamment, il y a le problème de la Cour constitutionnelle qui est actuellement aux mains totalement du régime en place, dans la mesure où la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, 3 désignés par le président de la République, 3 désignés par l'Assemblée nationale, 3 désignés par le Sénat. Le Sénat n'existant pas, donc c'est l'Assemblée nationale qui désigne 6 membres. Vous connaissez la configuration de l'Assemblée nationale actuellement, c'est 62 députés pour le parti présidentiel et Unir et 29 pour l'opposition. Donc vous voyez, tous les 9 sont aux mains de la
Donc prochaine
la
étape
de la réforme constitutionnelle.
Oui.
Alors, monsieur le député, au-delà des questions techniques, il faut quand même rappeler que nous sommes là dans le cadre d'une négociation politique, donc d'un rapport de force entre pouvoir et opposition. Alors, je vais vous poser la question très précisément. Que pensez-vous de la déclaration de Jean-Pierre Fabre, leader de l'opposition, patron de l'ANC, qui dit voilà qu'il y a des avancées notables et que désormais l'opposition s'inscrit dans un processus électoral? Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Je ne pense pas qu'il ait dit ça d'une manière aussi explicite que cela.
Si, il a dit ça.
Nous sommes prêts à intégrer la CENI. L'opposition va intégrer la CENI.
Oui.
Mais ça veut dire qu'il faut revoir tout le processus. Les CELI, il faut les recomposer. Les commissions de liste 4, il faut les recomposer. Tout cela. Nous ne sommes jamais écartés du processus électoral. Mais tout ce que nous disons, il faut qu'on fasse les réformes d'une manière claire, transparente et consensuelle. À partir de là, le processus électoral continue. Donc pour nous, il faut qu'on fasse tout ça. Si on peut faire tout ça avant le 20 décembre, pourquoi pas, on peut faire les élections. Mais si on ne peut pas le faire avant, si on va bâcler les choses, nous ne sommes pas d'accord.
Alors, vous n'irez pas aux élections à ce moment-là?
La probabilité est forte. Parce qu'il ne sert à rien d'aller aux élections pour que demain, on retombe dans les mêmes crises. Non, je ne crois pas que c'est responsable de la part des gens de nous demander d'aller aux élections dans cette condition. Bon, peut-être que le gouvernement a la force, la puissance, la force brute, l'argent pour faire tout ce qu'il veut, et pour faire tout ce qu'il veut, pour martyriser la population, mais je ne pense pas qu'il faille être complice de ce comportement.
Alors, où en est-on aujourd'hui de cette revendication centrale, celle qui a alimenté au fond la crise déclenchée en août 2017, c'est-à-dire le retour à la constitution de 1992 impliquant le départ du président Faure Gnassingbé au terme de son mandat?
Oui, cette revendication est toujours maintenue. Disons que nous n'avons plus voulu dire que nous voulons le retour intégral à la Constitution de 92. Comme je le dis souvent, ce n'est pas parce qu'on ne va pas avoir une virgule dans la nouvelle Constitution que nous allons dire par rapport à la Constitution de 92 que nous dirons que nous ne sommes pas satisfaits. Donc, nous insistons sur 5 points essentiels, notamment la limitation du mandat, avec la phrase « en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats », les prérogatives et le mode de désignation du Premier ministre, le mode de scrutin à l'élection présidentielle,
à deux tours,
ensuite la révision de la Cour constitutionnelle et les conditions d'éligibilité du président de la République. C'est les 5 points essentiels sur lesquels nous insistons. Évidemment, le point sur lequel il y a désaccord actuellement, c'est le bout de phrase « en aucun cas, ne peut faire plus de 2 mandats ».
Parce que cela implique que le président Fort ne pourra plus être candidat en 2020.
Ça. Voilà, c'est ça que cela implique.
Vous savez bien que cette rétroactivité est totalement rejetée par le pouvoir. Pour le pouvoir, c'est un point non négociable.
Bon, nous aussi, nous avons des points non négociables. Mmh. Oui, nous avons la liberté. Parce qu'entre nous, il est là depuis, il va faire 15 ans bientôt, dans notre sous-région.
Depuis 2005.
Il est le plus jeune président, mais le doyen des présidents. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Bon, nous n'avons pas d'avis.
Vous n'avez pas d'avis. Mais non, je ne demande pas, voilà, en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, pas journaliste, vous n'avez pas
Francis,
d'avis.
Je souhaite peut-être, si vous permettez, qu'on donne la parole à Guy-Pierre Bitégué, voilà, de l'Ambaréné, sur ce dialogue politique en cours au Togo avec, on va dire, quand même un petit progrès, même si c'est maigre, même si notre invité estime que ce n'est qu'une application de la loi, mais certains disent que c'est quand même pas rien, Guy-Pierre.
Je crois qu'à écouter le compatriote, je me retrouve, c'est parfaitement les mêmes réalités que nous vivons au Gabon. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que par moment, le pouvoir va lâcher du lest, mais il ne lâchera jamais du lest sur l'essentiel. Il y a des points sur lesquels il tiendra. Par exemple, le compatriote a parlé de la Cour constitutionnelle, telle qu'elle est constituée, la formation de commissions électorales, parce que c'est là le levier, si vous voulez, du pouvoir. C'est là les formes de décision même du pouvoir en ce qui concerne l'organisation des élections. Si bien que, effectivement, il y a eu des avancées qui tiennent compte du bruit que fait la rue, des avancées qui tiennent compte des négociations sur le plan international, parce que vous savez, les dictateurs qui dirigent chez nous tiennent à leur image à l'international. Et donc, lorsqu'il y a un certain nombre de choses qui se font à l'interne et que ça arrive à un certain nombre et que ça arrive à l'international, ils reculent un peu. Mais lorsqu'on arrive aux élections, vous verrez que les réalités au Togo, c'est à peu près les mêmes réalités qu'au Gabon, que dans les autres dictatures.
Donc, Guy-Pierre, vous êtes en train de dire clairement que malgré la parité au niveau de la commission électorale, ce n'est pas une avancée et que tout reste à faire.
C'est des avancées, mais des avancées, je dirais, mineures. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le pouvoir ne veut pas un blocage à ce niveau. Tant qu'il peut lâcher du lest pour que les choses avancent, il ne lâchera jamais du lest sur l'essentiel. C'est ce que je veux dire.
Pour l'instant, on n'en est pas encore là.
Exact.
J'ai dit pour l'instant, on n'en est pas encore à d'autres revendications de l'opposition.
Non, je n'ai pas dit. Nous sommes sur le plan. Il faut qu'ils soient en train de mettre en place les textes et les stratégies pour aboutir à des élections, pour aboutir à de bonnes élections. Mmh. J'attends le compatriote. Je dis sur ce plan-là, les réalités au Togo sont à peu près les mêmes qu'au Gabon. C'est-à-dire que le pouvoir lâchera du lest sur un certain nombre de choses, de revendications de l'opposition. Et c'est ce que semble dire le compatriote. Mais je vous dis, on en reparlera récemment un jour, le pouvoir ne lâchera jamais du lest sur le reste.
On verra ce qu'en pense notre grand témoin dans quelques instants, puisqu'on va pouvoir poursuivre le débat sur l'actualité togolaise après la pause qui intervient à présent.
Le débat Africa BBC.
Notre grand témoin invité, Aimé Tchabouré Gogué, député à l'Assemblée nationale du Togo, président du parti politique l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ancien ministre du plan et de l'aménagement du territoire du Togo. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis l'Ambaréné au Gabon, Guy-Pierre Bitégué. directeur de la publication du journal Le Bandia. On va donc poursuivre le débat sur l'actualité togolaise. Aimé Tchabouré-Gogué, quand on entend ce que vient de dire Guy Pierre Bitégué, qui s'exprimait avant la pause, ce qu'il dit au fond, c'est que, au-delà, je dirais, des négociations sur des questions, disons, techniques, hein, la Cour constitutionnelle, la mise en place d'une loi électorale éventuellement, et la recomposition de la commission électorale, ce sont des réponses politiques, au fond, que les Togolais attendent pour sortir de cette crise. Est-ce que ces questions politiques ne vont pas constituer l'écueil majeur, à un moment donné, dans les négociations en cours entre l'opposition et le pouvoir?
Non, effectivement, mais nous souhaitons tous que nous puissions revenir à de bons sentiments pour l'intérêt supérieur du pays. Parce que, moi je le dis souvent, nous sommes en négociation et nous devons négocier dans le sens où la solution qu'on trouvera sera gagnante pour tout le monde. Il ne faut pas que, moi je ne serais pas content si seulement l'opposition gagne et que le parti présidentiel perd totalement. Donc, nous devons vivre ensemble, nous devons faire chacun des efforts pour arriver à une solution consensuelle. C'est ce que nous souhaitons.
Monsieur Gogué, vous insistez sur la réforme avant les élections. Or, on a observé que les experts électoraux ont été envoyés pour soutenir la commission électorale dans l'organisation des élections. Est-ce que c'est le même discours? Est-ce que là, il n'y a pas une sorte de dichotomie dans le discours?
Non, pas nécessairement. Les experts électoraux, j'espère qu'ils sont habitués à appuyer, à donner une assistance pour les élections.
Oui, mais là, ils s'investissent pour les élections.
Oui, mais bien sûr, mais ils doivent.
Alors que vous vous dites, il faut d'abord les réformes.
En même temps, il y a quelqu'un qui doit faire une proposition de constitution consensuelle. Donc, ils sont tous là. Bon, pour nous, les experts électoraux doivent nous dire le chronogramme pour les élections. Et en même temps que l'expert en droit constitutionnel nous proposera quelque chose pour la Constitution.
Qui intégrera les réformes.
Certainement. Oui, tout se fait de manière simultanée.
Donc vous faites confiance à ces experts?
Pour le moment, on n'a pas le choix. D'une manière générale, nous avons dit au début, l'assistance électorale ne se limite pas à deux experts. Ça, c'est clair. Ça ne se limite pas à des experts. Il y a plusieurs choses. C'est une équipe d'experts qui vient. Généralement, quand un pays est en crise, on veut l'assistance électorale. C'est toute une équipe. Bon, la CDAO n'a pas nécessairement l'expérience en assistance électorale. Généralement, c'est les Nations Unies, c'est l'Union européenne. Bon, mais nous voulons trouver une solution. Ils nous ont proposé deux personnes. On verra ce qu'ils feront.
Et vous avez tout à l'heure, avant la pause, Monsieur Gogué, que vous devez aussi faire des efforts parce que chacun doit gagner dans ces discussions. Et vous avez dit clairement que vous ne demandez plus le départ de Faure Gnassingbé en 2020. C'est bien cela?
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que pour nous, il est très important. Je disais en blaguant que quelle est votre opinion? Il est le plus jeune et le doyen du président de l'Afrique, et de l'Afrique de l'Ouest notamment. Pour nous, c'est très important qu'il puisse prendre un engagement clair qu'il ne sera pas candidat en 2020. Nous souhaitons.
Donc vous demandez toujours le départ du président Faure Gnassingbé en 2020, comme préalable?
Comme préalable, pour nous, c'est une revendication importante.
Alors, il faut quand même rappeler que cette crise que vous êtes en train de tenter de résoudre aujourd'hui, Aimé Tchabouré-Gogué, avec l'opposition, a été déclenchée en août 2017. Je rappelle fortement cette date parce que c'est une date importante quand
non,
même.
Non, c'est pas une date importante.
Si, c'est une date
importante. La crise togolaise dure depuis longtemps.
On peut remonter aux années 90. D'accord.
Ça a pris une autre forme à partir voilà.
Il y a eu plusieurs épisodes, il y a eu plusieurs rebondissements. Le dernier épisode en date, c'est celui dans lequel vous vous inscrivez aujourd'hui. C'est-à-dire cet épisode qui a été déclenché en août 2017.
Voilà.
À l'initiative quand même, à la forte initiative d'un parti, le Parti National Panafricain de Tikpi Akadam.
Bien sûr.
Qu'est devenu ce parti aujourd'hui dans ces négociations et dans ce dialogue que vous avez engagé avec le pouvoir?
Non, le parti participe ardemment. Nous avons toujours un représentant.
Avec son leader qui est invisible?
Non, malheureusement, son leader n'est pas là, ce que nous regrettons beaucoup.
Oui.
Nous aurions souhaité qu'il soit présent et que les conditions soient remplies pour qu'il soit présent aux négociations.
Est-ce que vous pensez qu'il a peur pour sa sécurité? Ah oui. Est-ce que vous pensez que les Togolais font pleinement confiance à l'opposition qui, quand même, au cours justement de toutes ces années que vous avez évoquées, depuis les années 90, n'est jamais parvenu finalement, faire aboutir aboutir ces revendications essentielles. C'est-à-dire, au fond, ce que vous réclamez depuis 20 ans, c'est quand même un changement de système radical. Et c'est ce que les manifestants ont de nouveau réclamé depuis plusieurs mois. Est-ce que toutes ces réponses vont être apportées avant les élections prévues pour décembre 2018?
C'est ce que nous espérons avoir. Vous savez, l'opposition togolaise a opté pour la non-violence. C'est très clair, l'opposition togolaise. Et ça, on l'a démontré, on n'a pas besoin de le dire, nous avons opté pour la non-violence. Et ça, c'est clair. Le gouvernement a opté pour la violence. Il utilise l'armée, les forces de l'ordre, des milices pour terroriser, pour tabasser, pour violenter la population, tuer la population. Bon, nous avons fait cette option, nous avons espéré que ça va payer. Évidemment, ça traîne parce qu'ils ont tous les moyens, ils ont les moyens financiers, ils ont les armes contre la population. C'est ça qui fait traîner les choses. Mais je crois que c'est une option que nous avons prise et je crois que depuis longtemps, la population continue à nous faire confiance. Mais la population reconnaît en même temps que c'est très difficile la lutte que nous menons.
Francis, vous permettez une dernière question avant de passer au prochain. À un moment donné, on a eu l'impression que l'opposition togolaise ne faisait pas tout à fait confiance à la médiation de la CEDEAO, que certains jugeaient un peu partiale ou proche du pouvoir. Est-ce que vous faites confiance aujourd'hui pleinement à cette médiation?
Vous savez, c'est difficile de faire confiance pleinement à quelqu'un. Mais nous reconnaissons que pour le moment, on fait confiance. 100%, c'est difficile
confiance
à dire.
Confiance mesurée.
Mesurée, oui. Nous le verrons au résultat. Mais s'il propose quelque chose qui n'est pas satisfaisant, nous l'accepterons pas.
Mais qu'est-ce que
vous
attendez concrètement? Qu'est-ce que l'opposition togolaise attend concrètement de la CEDEAO pour montrer qu'elle est impartiale?
Évidemment, on le verra. On verra tout prochain jour. Un, le gouvernement veut faire le recensement électoral à partir de lundi, en absence des représentants de la coalition dans les structures devant contrôler ce recensement. Donc pour nous, c'est une étape importante. On verra ce que la CEDEAO dira. Et deux, vous savez, nos gens sont emprisonnés, sont des réfugiés. Même les réfugiés reviennent, on les arrête. Et nous espérons que la CEDEAO va taper du poing sur la table pour que les gens reviennent à de meilleurs sentiments. Parce que ce que nous ne disons
et
pas...
Et se montrer plus ferme à l'égard des autorités.
Bien sûr. Pour le moment, ayant opté pour la non-violence, nous ne disons pas que chaque citoyen est libre de faire ce qu'il veut. Chaque citoyen peut briser, peut violenter ou bien casser, voler lors des manifestations. Nous ne disons pas ça. Mais ce que nous disons, les gens qui ont été arrêtés, il y a deux poids, deux mesures de justice. Il y a des milices qui ont violenté la population, qui ont assassiné, qui ont blessé des gens lors des manifestations au vieux de tout le monde. Ils sont où? Ils ne sont pas arrêtés. Il y a des gens qui ont tué des manifestants. Ils sont où? Ils ne sont pas arrêtés. Alors que les opposants sont arrêtés.
Merci beaucoup. On va passer au prochain sujet.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Dans le studio de BBC Afrique, à Dakar, notre grand témoin invité, Aimé Tchabouré Gogué, député à l'Assemblée nationale du Togo, ancien ministre du Togo, président du parti L'Alliance des démocrates pour le développement intégral, l'ADDI. Notre confrère invité depuis l'Ambaréné au Gabon, il y a au téléphone Guy-Pierre Bitégué, directeur de la publication du journal Le Bandia. On va parler du Gabon justement, pas d'enquête de la Cour pénale internationale sur les événements d'août 2016 au Gabon. Saura-t-on jamais la vérité sur les violences post-électorales qui ont embrasé Libreville après la réélection contestée du président gabonais Ali Bongo Ondimba fin août 2016. C'est vrai que alors que la Cour pénale internationale avait successivement été saisie par l'opposition puis par le pouvoir gabonais au fin d'une enquête sur les événements survenus dans le pays au lendemain de cette présidentielle, un communiqué du bureau du procureur de la CPI a indiqué le 21 septembre dernier que, je cite, les conditions juridiques justifiant l'ouverture d'une enquête ne sont pas remplies. Fin de citation. Le pouvoir gabonais, par la voix du porte-parole du gouvernement Guy Bertrand Mapangu, salue, je cite, une décision juste et courageuse de la CPI, alors même que les organisations de la société civile estiment que la décision de la CPI constitue une déconvenue pour le pouvoir gabonais. Alors, d'autant que la CPI précise que sa décision, je cite, ne saurait en aucun cas masquer la gravité des actes de violence et les violations des droits de l'homme qui semblent avoir été commis au Gabon en 2016 et qui relèvent des autorités nationales compétentes. Fin de citation. Reste à savoir désormais si la justice gabonaise se saisira de ce dossier pour faire la lumière sur ce sombre épisode de la vie politique gabonaise. On va poser la première question certainement à Guy-Pierre Bitégué qui est au Gabon, à Lambaréné. Guy-Pierre Bitégué, comment expliquer cette satisfaction des autorités gabonaises à l'égard de ce communiqué de la CPI, alors même que ce communiqué n'est pas de nature vraiment à blanchir le pouvoir des accusations portées contre lui?
Merci. Je crois que je vous ai déjà rectifié. Vous dites que l'opposition a saisi la CPI. Non. Selon le statut de Rome, vous avez trois entités pour saisir la CPI. Le Conseil de sécurité de l'ONU.
Oui.
L'État membre, donc c'est le traité de Rome, et le procureur général, donc le procureur de la CPI. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après les tueries qu'il y a eu le 31 août au QG de Jinping, pour éviter que le procureur donc saisisse la Cour pénale internationale, le Gabon, qui est un membre du traité de Rome, a saisi la Cour, mais avec un dossier vide. Effectivement, l'idée que le dossier examiné à la CPI serait rejeté. C'est qu'effectivement nous avons assisté. L'autre chose, c'est que vous avez dans ce dossier non seulement un dernier de justice, mais aussi un narcissisme pervers. Pourquoi? Le procureur, dans son rendu, reconnaît que l'État, via les forces de l'ordre, a fait usage du proportionné de la force. Qu'il y a eu effectivement des morts le 31 août et les jours qui ont suivi. Et dit qu'il ne peut pas poursuivre. Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement qui célèbre hautement et joyeusement une victoire. Autrement dit, donc, voilà un plaignant à qui aura une décision qui lui est défavorable et qui dit oui, j'ai gagné, la Cour m'a donné raison.
Oui.
C'est invraisemblable.
Oui. Oui, Liliane.
Bon, écoutez, Guy-Pierre, la décision de la CPI de ne pas enquêter sur ces violences, pour vous, vous dites que le gouvernement s'est débrouillé à déposer un dossier vide, donc qui ne pouvait pas, les éléments contenus dans le dossier ne pouvaient pas permettre à la CPI d'ouvrir véritablement une enquête et d'où sa décision. Mais est-ce qu'on ne peut pas néanmoins y voir aussi en cette décision un échec, voire un désaveu de l'opposition qui avait quand même brandi cette saisine de la CPI comme une vraie menace pour la crédibilité du processus électoral contesté?
Je crois que l'échec, si on veut parler d'échec, l'échec qu'on peut donner à l'opposition, d'avoir raté, vous savez, il ne suffit pas de défendre un dossier à la CPI, parce que quand même la CPI est venue au Gabon et l'opposition, y compris la société civile, ont alimenté le dossier avec des arguments en béton. Mais ce qui a manqué à l'opposition gabonaise, si vous voulez, c'est l'autre part du dossier, c'est-à-dire le lobbying international. Lorsque vous déposez, vous avez un dossier comme celui-là, vous devez le défendre à l'international pour qu'il puisse aboutir.
Mais pourquoi un lobbying, alors que la CPI est censée enquêter de manière indépendante, pourquoi fallait-il que l'opposition fasse un lobbying pour que la Cour pénale internationale accepte d'enquêter ou d'ouvrir une enquête?
Pour plusieurs raisons que vous pouvez maîtriser en tant que journaliste, pas moi, c'est que la CPI, pour qu'elle agisse, il faut que si la crise ou les violences sont poursuivies, comme vous avez vu le cas Côte d'Ivoire, la CPI aurait enquêté. Elle est quand même venue enquêter. Mais le Gabon était déjà, entre guillemets, dans un état d'apaisement. La France soutenait à bout de bras le régime de Libreville. Vous avez vu les images de procureur de la CPI reçu par le président gabonais en audience publique, alors que je n'accuse pas de Mme Fatouda.
Donc vous accusez la CPI d'être manipulée et d'avoir peut-être pris cette décision suite à des pressions politiques.
Madame, vous et moi sommes humains, faibles de nature et pouvant s'en céder à un moment ou à un autre à l'avoir et au pouvoir.
Alors, il faut quand même préciser aux auditeurs, quand même, Liliane, que l'opposition a constitué un dossier pour crime contre l'humanité et que par ailleurs, le pouvoir gabonais donc accusait l'opposition d'incitation au génocide. C'est sur ces deux faits, évidemment, que la CPI a tranché. Il faut aussi préciser que la CPI est une juridiction de subsidiarité et que, en fait, tant que, évidemment, la justice nationale n'est pas, dessaisie d'un dossier, elle ne peut pas remplacer la justice nationale. Justement, d'où ma question à Guy-Pierre Bitégué, est-ce qu'on peut imaginer, pourquoi pas, désormais que la justice nationale gabonaise se saisisse de l'affaire pour faire la lumière sur ces événements?
Je crois que vous avez écouté le compatriote tout à l'heure du Togo. qui vous a dit que dans nos pays, la justice est inféodée au pouvoir. Le pouvoir vous dit, allez-y, arrêtez X ou Y, et la justice se met en mouvement. En fait, la CPI, sans le savoir, a donné au pouvoir gabonais un chèque en blanc, parce que vous devez savoir qu'au Gabon, aujourd'hui, les enlèvements des opposants se poursuivent. Les arrestations des opposants se poursuivent. Or, si la CPI avait tout de moins pris la responsabilité d'enquêter, le pouvoir allait s'inquiéter et n'allait pas continuer les arrestations des opposants et des membres de la société civile.
D'accord. Pour l'instant, on n'a pas encore une réponse de la justice gabonaise, donc on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. On va attendre de voir. Sinon, Monsieur Tiabouré Aimé Gogué, quel est votre commentaire sur cette décision, on va peut-être ajouter controversée, de la CPI. Quand on écoute quand même les propos de Guy-Pierre Bitégué, il fait des accusations assez graves contre la Cour pénale internationale.
Bon, disons que, premièrement, on a trouvé, bon, en tout cas, nous, on avait trouvé assez bizarre que le gouvernement gabonais court porter plainte au niveau de la CPI. Et d'abord parce que, bon, comme on dit souvent en sport, la meilleure défensive, c'est l'offensive, c'est l'attaque. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on a interprété. Évidemment, maintenant, la CPI dit qu'elle ne peut pas poursuivre.
Elle ne peut pas ouvrir une enquête.
Bon, évidemment, bon, nous... Mais ce qu'on sait, mais il faut retenir deux choses. D'abord, un, la CPI dit que ça ne lave pas le fait qu'il y ait crime, qu'il y ait violence et nuit dans le pays. Ça, c'est important à retenir.
C'est ce que dit clairement le communiqué. Cette conclusion ne saurait en aucun cas masquer la gravité des actes de violence et des violations des droits de l'homme qui semblent avoir été commis au Gabon lors de la crise post-électorale, ni les conséquences qu'ils ont pu avoir sur les victimes.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important à reconnaître au niveau de la population.
Donc, pour vous, c'est un argument pour la justice gabonaise de se saisir de ce dossier.
En fait, la justice gabonaise ne veut pas attendre jusqu'à ce mois pour établir les faits. Ça remonte à 2016.
Mais en même temps, l'affaire était devant la CPI. Donc, c'était peut-être ce qui a justifié.
La justice gabonaise connaît ses responsabilités. Elle connaît ses responsabilités, elle devait saisir de cette affaire sans attendre une plainte de qui que ce soit. Malheureusement, ils ont attendu. Évidemment, maintenant, la balle est dans leur camp. On espère que cette fois-ci, au moins, ils vont, pour l'avenir du pays du Gabon, ils vont lire la justice.
Et puis des victimes aussi qui peuvent être... si la justice n'est pas rendue, les victimes dans tout cela...
Non, c'est pourquoi il faut lutter pour la promotion des droits de l'homme dans nos pays. C'est regrettable que le gouvernement puisse... avoir des actes d'une manière impunie et continuer à gouverner d'une manière inconsidérée la population. Il est très important que les droits de l'homme soient respectés dans nos pays. C'est regrettable, il y a plusieurs morts. Nous rappelons les élections de 2005, il y a près de 500 et 1000 morts. Pour un petit pays comme le Togo, en l'espace de quelques jours, c'est énorme. Malheureusement, les gens sont là, impunis.
D'accord. Francis, avec Guy-Pierre.
Guy-Pierre Bitégué. Alors, est-ce qu'on peut dire que voilà, pour le pouvoir gabonais aujourd'hui, l'incident est clos, le dossier est fermé, on n'en parle plus, puisqu'il y a eu ce communiqué plutôt réjoui de la part de la présidence.
Je crois que tant que le pouvoir en place, les mêmes dirigeants seront là, on peut considérer que peut-être pas clos, parce que les victimes n'ont pas encore fait le deuil des morts. La patrie n'a pas fait le deuil des morts. Sans victime, sans deuil, sans réconciliation nationale. Parce qu'il y a ça aussi. Il faut que le pouvoir, à un moment, fasse preuve d'humilité et demande pardon et reconnaisse les actes qu'il a posés pour arriver à la réconciliation. Or, au Gabon, le climat politique est encore assez tendu. Vous avez appris que les élections dans quelques jours, une partie de l'opposition a décidé d'y aller et n'a pas d'y aller pour, par respect des morts du 31 août 2016. Donc je crois qu'il faut que, je ne pense même pas que le fait que le pouvoir en place organise ces élections va arrêter quelque chose. Il faut qu'un jour arrive une vraie réconciliation des cœurs et des esprits.
Mais en attendant, de quels moyens peuvent disposer ou disposent aujourd'hui l'opposition et la société civile qui, d'après certains, travaillent ensemble pour pouvoir pousser ou contraindre la justice gabonaise à se pencher sur ces violences post-électorales pour que les victimes aient quand même gain de cause?
Vous savez, il faut peut-être revenir au Gabon pour voir dans quelles conditions vivent les Gabonais, particulièrement ceux qui contestent le pouvoir. Moi-même, j'étais passé du pays, je suis allé en exil. J'ai pu revenir grâce à une médiation internationale. Mais la pression policière est telle qu'au Gabon, vous avez l'impression que c'est un état policier. Alors, si vous êtes victime, par exemple, et que vous essayez d'amener des démarches, soit c'est la corruption qui est mise en usage...
Je n'ai pas parlé des démarches entreprises par les victimes. Je disais que peuvent faire aujourd'hui l'opposition et la société civile, peut-être ensemble, pour que la justice se saisisse de ce dossier.
Mais ensemble, vous savez qu'il y a des opposants en prison, madame. On continue à arrêter les gens de l'opposition de la société civile. C'est-à-dire que pour peu que vous ouvrez les dossiers dans tel ou tel parti gêne le pouvoir, on vient vous arrêter chez vous et vous retrouver en prison.
Vous voulez dire que les victimes ou les leurs familles doivent renoncer à tout espoir?
Non, du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la société civile, une partie de l'opposition, la presse par exemple, essayons de faire bouger les choses, vous voyez, mais à nos risques et périls, parce que je vous dis bien qu'au Gabon, les enlèvements se poursuivent jusqu'à toujours, les arrestations d'opposants se poursuivent.
Moi, je crois que il faut que la population. On ne doit pas laisser seulement. Ce n'est pas une histoire seulement de l'opposition et de la société civile.
Je disais, au cas où la justice gabonaise ne se saisissait pas de ce dossier après le communiqué de la CPI.
Non, je crois que souvent, on croit que c'est l'opposition qui doit faire ou bien les organisations de la société civile qui sont par ailleurs très faibles. Je ne connais pas le cas du Gabon, mais dans beaucoup de pays de l'Afrique francophone, les organisations de la société civile sont très faibles. Il faut que la population comprenne que c'est une histoire qui concerne tout le monde. On ne peut pas laisser ça continuer indéfiniment. Et je suis sûr même qu'il y a eu des innocents qui sont morts dans cette affaire. Donc il est important que la population puisse faire des pressions, puisse manifester pour que le gouvernement puisse entendre raison.
Bon, d'accord. Ça, c'est une sorte d'appel à la révolte et nous ne pourrons pas le faire. Vous laissez le dire tout cela sur BBC Africa, Franco, un pari. Francis, si vous permettez, on passe sans transition au dernier sujet qui est le Cameroun.
Oui.
Les 9 candidats à l'élection présidentielle ont encore une semaine pour convaincre les électeurs. Depuis le début officiel de la campagne électorale le 22 septembre dernier, elle se déroule de manière plutôt discrète dans les zones anglophones, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, en proie aux violences. Aucun des candidats, une semaine après la campagne électorale, après le lancement de la campagne, ne s'y est encore rendu. Et les informations que nous disposons aujourd'hui indiquent que ce n'est pas pour demain que ces candidats le feront, alors qu'il reste une semaine. Alors, la campagne, donc, dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, M. Goguet du Cameroun, plutôt discrète, quel impact le fait de ne pas. Pour les candidats de ne pas pouvoir se rendre dans ces régions, quel impact cela peut avoir au final sur l'élection et les résultats eux-mêmes?
Non, c'est sûr que ça aura un impact. Disons d'abord, il y a certains candidats qui ont leur base électorale là-bas.
Le SDF, par exemple.
Le SDF.
Avec le Social Démocratique Front, principal parti d'opposition.
De l'opposition. Et il est possible que le gouvernement fausse les résultats, les fraudes soient plus élevées là-bas, même si le SDF peut avoir beaucoup plus de représentation dans les bureaux de vote. Mais vous savez, dans des pays comme ça, dans des situations de ce genre...
Donc, risque de détournement de vote très élevé.
Oui, des détournements de vote très élevé. Sur papier, hein, sans pas que les gens vont aller voter pour le parti au pouvoir. Mais il est possible, vous verrez, que le parti au pouvoir aura de bons résultats, entre guillemets, là-bas. Ça, c'est sympa, bon. Le problème qui se pose même au Cameroun, c'est cette histoire de... Vous savez, ça fait 2 régions sur 10. Et les gens réclament une certaine fédération. Les pays d'Afrique francophone, nous sommes habitués à cette histoire du jacobisme. Nous aimons la centralisation. Vous voyez, c'est le même problème au niveau de la RDC. Vaste pays, on leur propose la fédération, ils n'en veulent pas. Le Nigeria l'a fait et je crois que ça va assez bien. Mais je crois que le pays, le Cameroun, doit trouver une solution à la crise anglophone, francophone. Parce que lorsque vous allez là-bas, vous voyez effectivement que les anglophones sont un peu brimés par rapport aux francophones. Je crois qu'il faut trouver une solution.
Brimés, c'est-à-dire?
Quels sont
les
faits,
quels sont les éléments sur lesquels vous
quand
fondez
je vais au Cameroun,
vos,
je vois que
je
pense plutôt que le français domine par rapport à l'anglais, systématiquement. Moi, j'ai donné des cours.
Est-ce que c'est pas normal pour un pays 8, où il y a 8 régions sur 10 qui sont francophones?
Non, ils ont dit que c'est un pays bilingue, non? C'est un pays bilingue. Si c'est bilingue, ça doit être bilingue, intégralement. Mais malheureusement, je n'ai pas senti ça plusieurs fois où je suis parti au Cameroun.
La domination du français.
Du français est trop fort.
Donc, enfin, on n'était pas
à l'élection actuellement.
Anglophone, mais l'impact de cette crise est sur le processus.
Sur les élections, oui, c'est pas bon. J'ai l'impression que ça fausse un peu les résultats des élections. J'ose espérer qu'ils vont trouver une solution à ça. Mais pas à court terme.
Pas avant les élections.
Pas la semaine prochaine, non.
Tout à fait.
Bon, il y a évidemment la crise aussi du Boko Haram, qu'il ne faut pas oublier.
Dans l'extrême nord du pays, frontalé avec le Nigeria.
Donc il ne faut pas oublier ça aussi.
Merci.
Donc manifestement, une bonne partie de la population ne pourra pas voter le 7 octobre prochain, surtout dans ces...
Il semble qu'il y a environ 200 000 personnes qui ont fui la zone.
Oui, c'est ça.
C'est élevé. Plus maintenant des gens qui... Peut-être qu'ils sont là, mais qui ont peur d'aller voter.
Sans compter les troubles, les affrontements entre l'armée et les indépendantistes qui sont prévus pour les prochains
jours.
Qui est prévu, alors, une intensification de ces affrontements qui est prévue. Alors, vous voulez Aimé Tchabouré-Gogué, que quels que soient les résultats de ces élections, le prochain président sera forcément mal élu, quoi.
Oui, sa légitimité sera un peu mise en cause.
Mmh. D'accord. Guy-Pierre ? Oui, sur cette crise anglophone qui impacte la campagne électorale et qui va forcément avoir aussi une incidence sur le scrutin et les résultats.
Il y aura forcément l'impact, comme l'a dit le compatriote tout à l'heure. Déjà, le fait que la partie anglophone soit entre les mains de les actifs de là-bas et que le pouvoir en place refuse de régler la crise. Je crois que la sagesse aurait voulu que, pour arriver en partie à l'apaisement, que l'actuel président, qui a quand même pris de l'âge, c'est vrai que tant qu'on est vivant, il n'y a pas d'âge pour faire de la politique, M. Paul Biya aurait dû prendre la hauteur et se mettre en réserve et donner un nouveau souffle au pouvoir camerounais. Et à ce moment-là, les nouvelles autorités politiques, je veux dire le nouveau gouvernement, le nouveau président, aller voir avec les compatriotes anglophones comment sortir.
Quand vous dites que Paul Biya aurait pu donner un nouveau souffle, pouvez-vous être plus clair, Guy-Pierre? C'est-à-dire, il n'aurait pas dû se présenter dans le contexte actuel?
Oui. Je crois qu'il porte en grosse partie les germes de cette crise-là.
Justement, ses partisans estiment que c'est parce que c'est lui qui est responsable, d'après certains, de cette crise, et qu'il doit effectivement rester pour trouver la solution à ces tensions.
Oui, mais vous savez très bien que M. Paul Biya ne vit plus au Cameroun. Moi, je rentre du Cameroun, il ne m'a même pas campagne.
Je n'en sais rien.
C'est un militant qui bat de campagne. Donc, vous voyez déjà lorsqu'un président...
C'est vrai qu'il n'est pas, depuis une semaine, on ne l'a pas encore vu président meeting pour l'instant.
Exactement.
D'accord. Francis ?
Non, je veux juste dans la foulée de ce que dit Guy-Pierre Bitégué, parce que c'est vrai que la situation camerounaise était très particulière. Et Aimé Tchabouré-Gogué, qu'est-ce que vous pensez de ce que certains appellent désormais une anomalie camerounaise? Un président au pouvoir depuis 36 ans, 85 ans, qui brigue un septième mandat, qui ne vit pas dans son pays, qui ne fait pas campagne, qui est silencieux depuis le début de la campagne, mais dont on dit quand même qu'il pourrait être réélu le 7 octobre prochain. Et quelle réflexion vous inspire cette anomalie camerounaise?
Ce n'est pas qui pourrait être réélu, il sera réélu.
Ah ben voilà.
C'est quelque chose de bizarre. Je ne comprends pas ça des Camerounais. J'ai beaucoup d'amis du Cameroun, je vais souvent. C'est un pays qui a le plus grand nombre d'intellectuels, de cadres, d'intellectuels en Afrique francophone. Mais je ne comprends pas pourquoi cette situation peut prévaloir. Quelqu'un qui n'est jamais là, et il semble, je ne sais pas si c'est des anecdotes ou pas, qui ne connaît même pas ses ministres.
Il bat campagne à travers ses soutiens.
Il ne fera pas de campagne, lui. Il va rester chez lui, il sera réélu. Qu'est-ce que je pense de ça, vraiment?
Oui, c'est ça ma question.
Non, je sais, c'est difficile. Je n'arrive pas à comprendre ce comportement.
Réélu, c'est-à-dire que les Camerounais n'ont pas besoin de le voir pour l'élire, ou bien
C'est la machine qui est forte.
Des fausses transparences.
Les fausses transparences qui vont faire qu'il sera réélu. Ça ne veut pas dire qu'il est...
Donc vous restez sans réponse.
Je reste en réponse parce que je ne comprends pas.
On comptait sur vous pour avoir une réponse parce que beaucoup gens s'interrogent.
Je ne suis pas, je suis pas un magicien.
Ah, vous êtes un analyste politique.
Non, je suis un politique, non nécessairement un analyste politique. Je ne peux pas comprendre ce
mais
comportement.
Mais permettez-moi, messieurs, de souligner cependant qu'il y a 9 candidats en liste et que chacun des 9 candidats a toutes les chances d'être élu.
Oh non,
ils sont, ils partent avec les mêmes chances, Francis. Après le scrutin le 7 octobre, on verra bien ce que les Camerounais auront.
J'ai l'impression que de vous entendre comme quand vous commentez la Coupe du Monde, Liliane, parfois.
Ah bah, elle commentait la Coupe du Monde.
Parlant de commentaires, Francis, c'est le moment d'écouter
la Coupe du Monde de football.
Oui, ouais, j'ai compris.
Les commentaires, on va écouter à présent les commentaires et réactions de nos auditeurs sur la page Facebook.
Avec Sandra Bassabem.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici une sélection des réactions recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sur le Togo, Charles Bazema estime que les opposants togolais doivent se mettre ensemble pour les élections prochaines. Parce que, dit-il, toutes les institutions sont contrôlées par le pouvoir en place. Il termine son propos en exhortant les Togolais à plus de vigilance. Quant à Ozana Teandoum Dimirangar, il juge que le pouvoir et l'opposition doivent mettre de côté leurs intérêts au profit des intérêts du peuple togolais. Bidi Emmanuel Gogoua demande à l'invité quelle serait la formule idéale pour un retour au calme entre les deux parties. Diarra Kanyoumé, pour sa part, se demande pourquoi les opposants africains ont toujours eu des problèmes avec le pouvoir en place. Sur le Gabon, Nguessan Atchoué affirme que les victimes sont oubliées. Et selon ses dires, la décision de la CPI devrait servir de leçon aux personnes qui appliquent aveuglément les mots d'ordre des politiciens. Enfin, sur le Cameroun, Yogou Yapi Yapi se demande pourquoi la communauté internationale ne se prononce pas sur cette crise. Baba Bilal, pour sa part, estime que la campagne électorale va s'effectuer dans toutes les régions du Cameroun et poursuit que les deux régions anglophones ne vont pas empêcher la tenue des élections. Merci à tous. Merci de continuer à nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et d'ici là, portez-vous bien.
Merci beaucoup,
merci à
Sandra Bassabam.
Sandra Bassabam.
En 30 secondes, une conclusion générale, Aimé Tchabouré-Gogué, s'il vous plaît, en 30 secondes.
Non, nous espérons tous que tout va bien se passer au Togo, que le calme va revenir, que la classe politique
Et quelle est la formule, demandait Emmanuel Gogoua.
La formule, c'est que nous espérons, je suis de l'opposition, j'espère porter la voix de la population, c'est ce que nous disons, et j'espère que le gouvernement, le régime en place va attendre raison pour se préoccuper de la volonté de la population.
Merci beaucoup, Aimé Tchabouré-Gogué. Vous êtes notre invité, notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Togo, président du parti l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Merci beaucoup. Merci à notre confrère Guy-Pierre Bitégué qui est avec nous au téléphone depuis Lambaréné au Gabon, directeur de la publication du journal Le Gbandia. L'émission a été réalisée à Dakar par Patrick Tévy, régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production cette semaine. Sandra Bassabam. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end à vous, Liliane. Et bonnes vacances, peut-être.
Merci, peut-être. Francis Laloupo. Les prochaines semaines, vous vous débrouillerez seul, sans moi.
Donc, comment vous dites
voilà,
ça.
Vous ne m'avez pas retenu cette fois et je vais donc en vacances. Au revoir.
Vous
et
le
merci
méritez bien.
De nous avoir suivis. Merci, Francis. Au revoir.